Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est une nouvelle page qui s'ouvre dans toute une vie, à la découverte de vies en forme de portraits sonores d'hommes et de femmes qui ont marqué leur époque et les suivantes. On pourrait dire que tout le monde l'a connue. Les enfants comme les grands, on l'a écoutée, on l'a redécouverte, on a fredonné ses chansons entre les sorcières, les yaourts et les gens qui doutent. On a regretté de l'avoir oublié un temps. Élise Andrieux et Annabelle Brouard remettent en scène Anne Sylvestre dans le labyrinthe de sa discographie et de ses secrets de famille.
Et ça fait combien de cris en silence poussés ? Pleure ma terre au ventre déchiré.
Pour chaque situation dans la vie, il y a une chanson d'Anne Sylvestre, voire plusieurs.
Que les éclairs déchirent l'horizon. Attends, je voudrais pas me tromper sur les paroles.
Et puis à la fin, c'est « Toutes les Clémences prendraient des vacances, elles ne feraient plus rien. » Toutes les Clémences, comme en enfance, elles seraient bien.
Et d'un seul coup, sous nos oreilles, sous nos yeux, il y a un coin de table. On est dans une cuisine, et puis on est à côté d'elle, et puis elle nous parle.
La tempête engendre la tempête.
Puis je me dis, oui, c'est vraiment ça que je vis. Et elle me le dit, elle me le raconte.
Elle est belle, cette chanson.
Si vous le savez, comment je m'appelle, vous me le direz, vous me le direz. Si vous le savez, comment je m'appelle, vous me le direz, je les oubliais. Vous me le direz, je les oubliais.
Si vous le savez, comment je m'appelle, vous me le direz, vous me le direz. Si vous le savez, comment je m'appelle, je les oubliais, vous me le direz, je les oubliais. Quand j'étais petite et que j'étais belle, on m'enrubanait de ces noms jolis. On m'appelait fleur, sucre ou bien dentelle. J'étais le soleil et j'étais la pluie. Quand je fus plus grande, hélas à l'école, j'étais la couleur de mon tablier. On m'appelait garce, on m'appelait folle. J'étais quelques notes dans un cahier. Si vous le savez comment je m'appelle, vous me le direz, vous me le direz. Si vous le savez comment je m'appelle, vous me le direz, je les oubliais. Vous me le direz, je les oubliais.
Anne Sylvestre, celle qui nous chante. Un documentaire d'Élise Andrieux réalisé par Annabelle Brouard.
Quelle petite fille j'ai été. Une petite fille ronde avec de grands yeux verts, les yeux de maman. Une petite fille à jardin et à balançoire. Je me balançais et j'adorais la sensation procurée par la redescente. Ce creux à l'estomac, ce vide à la tête. J'étais une petite fille roulée dans la tendresse. Mon père m'aimait beaucoup. Maman, oh, ça ne se raconte même pas. C'était mon horizon, mon soleil et mon eau de pluie. On ne pouvait pas faire mieux. Mes deux frères, un me persécutait, l'autre me défendait.
Ma sœur était très 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 importante pour moi. Elle m'a appris comment démarrer dans l'existence. On allait tous les dimanches, on marchait juste le long de la Seine, elle avait sa guitare sur le dos, et c'était les troubadours, hein. Et puis on chantait, il y a des gens autour, enfin bon. Au début, elle savait quatre accords, puis petit à petit, elle a appris. Avec quatre accords, on chante beaucoup de chansons. Elle est née en 34 et moi en 42, et donc j'avais deux frères avant, Et ma mère était une mère au foyer de province, enfin c'était dans la région lyonnaise. Mon père, lui, était ingénieur chimiste brillant. Il était chez Rhône Poulain, qu'il avait un poste très important. Et puis, il est tombé dans la politique en 1936.
Sans entrer dans les détails, je peux dire que j'étais entourée de grands bouleversements, de grands malheurs, mais que pourtant, sans hésitation aucune, j'ai vécu une enfance heureuse. Sans doute parce qu'on m'aimait beaucoup, et que c'est la seule vraie sécurité.
Je suis Marie Chex Matthews. Je suis la petite sœur de Anne. Elle avait connu mon père beaucoup plus que moi. Moi, mon père, il est parti en Allemagne quand j'avais 2 ans, 3 ans. Pour moi, c'était une espèce de personnage qui existait comme ça dans le vague. Mais enfin, j'avais pas eu le temps d'avoir des liens affectifs. Or, elle adorait son père. Et il y a eu toutes ces grèves de 36, où il a pris position, évidemment, contre les grèves. Il a été chahuté par les grévistes. Il a fallu qu'il monte à Paris. Puis il a rencontré Doriot pendant un meeting à Saint-Denis, en 36. Il a été accroché par ce type dont il est devenu complètement redingue, quoi.
Je suis Daniel Panchenko. J'ai écrit une biographie sur Anne Sylvestre. L'enfance et l'adolescence, et même un peu au-delà d'Anne, va être traversée par des drames familiaux, et d'ailleurs toute sa vie, finalement. Son père, Albert Begras, va être tenté par les idées de Doriot. C'est le Parti populaire français, donc d'extrême droite, anti-bolchévique, etc. Et lui, sans être forcément un grand politique, il va être séduit par ses idées et il aura des responsabilités au sein de ce parti politique. Et en 1940, Anne a 6 ans et son père a rejoint Doriot à Marseille. Et Jean, le grand frère, il est très passionné par son père et il va adhérer d'ailleurs au Parti populaire français. Bon, il sera juste secouriste au début. Enfin, il va quand même être toujours auprès de son père. C'est en pleine guerre et il y a quand même une dégradation de la situation. Albert Begras va être obligé de s'enfuir, retrouver Doriot auprès du lac de Constance. Jean accompagne son père dans sa fuite et il va mourir lors d'un bombardement allié.
Nous, évidemment, on ne comprenait rien. Être en plein Allemagne, en pleine défaite, en plein truc, bombardement allié, enfin, c'est quand même mon père qui l'a envoyé au casse-pipe, quoi. Tout ça était absurde. Voilà. Et lui, d'ailleurs, mon père, a dû ne jamais s'en consoler. Ma mère l'a attendu pendant des années. Elle n'a pas voulu croire à sa mort. Même après, elle n'y croyait pas. Et on n'a jamais retrouvé une trace. Anne, ma sœur, bon, elle s'est pas remise non plus, elle était très très triste. Puis les suites aussi dans les premières années de scolarité après la guerre, bon, c'était très, on nous montrait du doigt quand même. C'était pas très glorieux d'être la fille de collabo, bien qu'on l'ait pas proclamé, mais enfin, voilà, on fait avec. Et puis on essaye de faire son chemin à soi. Qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a pas le choix. On avait un père qui a passé quand même presque 10 ans en prison. Toutes ces choses que j'ai racontées moi dans mon premier livre, Les lauriers du lac de Constance, paru en 1974. Mais quand mon livre est sorti, elle m'a dit « Tu fais ce que tu veux, mais ne dis pas que je suis ta sœur. » Ce que Marie décrit, je ne l'ai pas vécu de la même façon. Quand elle m'a finalement parlé de son livre, j'ai été terrorisée, prise de panique terrible. Je me suis sentie démasquée. Depuis toujours, même si je montais sur scène, j'avais un secret honteux. J'étais sûrement idiote de penser pouvoir le cacher. Il n'y a qu'avec les amis que je me sentais obligée de le confesser, sans jamais savoir s'ils allaient continuer à m'aimer.
Je cherche un mur pour pleurer. Oh, oh. Je cherche un mur pour pleurer. Oh, oh, oh. On ne pleure plus, paraît-il. On avale tout, c'est facile. On ne dit plus rien lorsqu'on vous crache dessus. On reste serein, la colère, c'est mal vu. On est poli, poli. On tend son cul. Merci, merci. Je cherche un mur pour pleurer. Oh, oh, oh. Je cherche un mur pour pleurer. Oh, oh, oh. On ne s'aime plus, paraît-il. On dit que l'amour est fragile. On est très moderne, on laisse sa liberté. Mais on fait les poches aussitôt le dos tourné. On est copain, copain. On ne se raconte rien, plus rien. Je cherche un mur pour pleurer.
Oh, je cherche un mur pour pleurer.
Je cherche un mur pour pleurer.
Oh, on ne pleure plus, paraît-il. On rigole et c'est plus facile. On n'écoute plus les poètes et les errants. On leur dit, taisez-vous, vous n'êtes pas marrant. On est télé, télé. On est si fatigué de penser.
Ça, ces hortensias, c'était un cadeau d'Anne. Alors elles sont un peu... Mais elles vont sécher. Mais tant qu'elles ne tomberont pas d'elles-mêmes, je ne les jetterai pas. C'est 2015. Elles sont là. C'est une façon de la voir dans la pièce. Ce qu'on adorait, c'était nos soirées toutes les deux. On se racontait les années héroïques de la rive gauche. Et on passait des soirées, on riait. Alors, je m'appelle Marie-Thérèse Aurin. Je viens du Sud, je viens de Nice. J'étais montée à Paris, comme on dit là-bas, pour être comédienne. Anne était déjà implantée dans des cabarets, par exemple à la Colombe. Elle passait, il y avait le rez-de-chaussée, où c'était les chanteurs, auteurs, compositeurs à guitare. Premier étage, ceux qui chantaient avec un piano. Alors, elle passait là. Elle a fait énormément de cabarets, Anne, au départ. Elle passait au Port du Salut. Elle passait... Et peu à peu, eh ben moi, je suis arrivée sur le marché, si je puis dire. Et je l'ai rencontrée, je pense que notre première rencontre, c'était la Colombe. Où il y avait Guy Béard, où il y avait Ferrat, où il y avait du beau monde.
Nous allons passer maintenant à la chanson suivante.
Voici Anne Sylvestre.
Avec son frère Paul, ils ont fait du scoutisme. Ils ont commencé à faire du scoutisme un peu pour s'échapper de cette ambiance, de cette atmosphère forcément pesante avec l'absence du père.
Tiens-toi droit.
Et donc, elle va se retrouver au Glénan, donc qui est un archipel au large de Concarneau, dans le Finistère. Et là, eh ben, avec sa guitare, elle se met à chanter comme ça, à la veillée pour ses copains, ses copines. Et puis, elle va rencontrer un gars qui est au Glénan, mais qui lui chante un petit peu, notamment dans un cabaret rive gauche de Paris, et qui va lui dire, bah, écoute, Anne, il faut absolument que tu ailles voir la Colombe, le directeur qui s'appelle Michel Valette, et qui t'auditionne.
Tiens-toi droit, ne t'arrondis pas, il faut que je marche. Tiens-toi droit, si tu t'arrondis, j'aurai l'air de quoi?
C'était affreux. Enfin non, mais affreux de peur, quoi. Alors je suis tombée sur Michel Lalette, puis moi le pied sur une chaise, et j'ai chanté deux trucs, trois trucs, et encore. Et je me disais, il a bien de la patience, ce gars-là, quand même. Et puis, à six, mais j'en veux encore, il me dit, il est fou. Et il paraît qu'on m'entendait pas, tellement j'avais peur. Je chantais le nez sur ma guitare, j'avais une affreuse guitare, mauvaise. J'avais peur.
La carrière d'Anne commence réellement donc en 1957 à la Colombe, et en 57, Anne, elle a 23 ans.
Vous savez, les cabarets, on en faisait 4 par soir, ou des fois 5, alors on n'avait pas le temps de s'apesantir. Hein. Dès qu'on avait fini de chanter, on prenait la porte. Les cabarets qui ne faisaient pas restaurant, c'était différent. Les gens étaient plus disciplinés. Mais les cabarets... où ils mangeaient, où ils buvaient. Alors, il y avait des soirs plus agitée. Moi, j'ai des souvenirs de réveillon. Ouf ! Parce que les gens, si on passait tôt, ils bouffaient. Il n'y avait que ce qu'on leur mettait dans l'assiette qui les intéressait. Et si on passait tard, ils étaient beurrés, ils ne nous voyaient plus. Alors moi, j'ai vu Anne s'empoigner. Ça me faisait rire. On apprenait notre métier. Ça vaut tous les cours possibles et imaginables. Parce que je peux vous dire que là, ça fait pas de cadeau. Hein. C'est pour ça que, après ça, le plafond pouvait tomber, n'importe quoi, on continuait. Hein. Ça nous arrêtait pas dans notre élan. Mais c'était une école très difficile et où on apprenait beaucoup le cabaret.
Ceci est un la. Une quinte. C'est pas une quinte juste, c'est une quinte fausse. Voilà. L'accordeur, normalement, devrait arriver la semaine prochaine. Et en attendant, il est strictement faux. Voilà. Donc, le début. Hein. Alors, quand je commençais ce début, Anne me disait donc, écoutez, je vous présente Nathalie Miravette des Concerts Parisiens. Voilà. Merci. Quand on a des emmerdements, quand on se cherche une maman, quand on a trop de sentiments, c'est pour moi. Quand les enfants sont pas gentils, quand on aime trop son mari, ou qu'on voudrait qu'il soit parti, c'est pour moi. Quand on cherche en vain l'amitié, quand on ne peut pas s'exprimer, c'est pas pour la porte à côté, c'est pour moi. L'araignée qui cherche un régime, l'auteur qui court après sa rime, la bavarde qui fait du mime, cherchez pas, c'est pour moi. Lâchez-moi. Voilà, ça c'est lâchez-moi. Ça me fait toujours rire parce que, pareil, elle campe des personnages absolument hauts en couleur et qui, en même temps, peuvent être elles. Quand elle chante, elle faisait la gueule aussi. Et à côté de ça, un mur pour pleurer, dans un même tour de chant, où d'un seul coup, elle parle là-dedans et on dit oui, voilà.
Mais c'était une grande chanteuse, Anne. Moi, j'aimais beaucoup sa présence en scène. Elle avait une autorité naturelle, Anne. Elle avait une stature. C'est de ces gens qui, quand ils débarquent sur un plateau, ils sont là, ils existent. Ils n'ont pas besoin de laser, de machin, de fanfreluche, parce qu'il y a un regard. Et ça, la présence, ça ne s'apprend pas, ça ne s'achète pas. On l'a ou on ne l'a pas.
Anne va avoir, comme elle commence à tourner, elle va avoir assez vite des articles hors de France, y compris en Suisse notamment, dans la tribune de Genève, où on écrit « Droite dans sa robe verte, les mains sur la guitare, le regard légèrement fixe, elle enchaîne tout son récital sans même attendre la fin des applaudissements entre deux chansons. De temps en temps, un sourire et un merci, et c'est tout. » Mais quand elle chante, elle a les dents et les yeux brillants d'intelligence. Elle sait suggérer la tristesse ou le plaisir en penchant la tête, en baissant les paupières, en avançant la lèvre inférieure.
Maman, le vent me fait la cour, le vent me trousse et m'éparpille, le vent me souffle des discours. Pardi, c'est ennuyeux ma fille, ça l'est bien plus encore maman, car le grand vent est mon amant. Fille folle, amante du vent, boucle ton corset, baisse bien la tête. Méfie-toi qui aime le vent, engendre la tempête, engendre la tempête. Maman, le vent partout me suit, le vent me presse et me bouscule, il pousse mes volets la nuit, pardi. Tu seras ridicule, de quoi ma fille a-t-on bien l'air en accouchant d'un courant d'air.
Je connaissais pas bien l'œuvre d'Anne en fait. Je connaissais les grandes chansons évidemment comme tout le monde, mais j'étais pas la connaître tout par cœur machin. Mais la première chanson qui m'a vraiment bouleversée quand je l'ai entendue chanter Carcasse. Et là je suis restée totalement. J'avais plus de mots, voilà, c'était exactement ça, j'avais plus de mots, elle m'est arrivée.
Voilà, c'est la puissance de son écriture, la puissance de son interprétation qui m'est arrivée à ce moment-là. Je m'appelle Nathalie Miravette, je suis pianiste. J'ai eu la chance d'accompagner Anne pendant 10 ans. Ça a été une très très belle rencontre, totalement inattendue en fait. Et j'ai presque plus appris d'Anne sur le plan humain que sur le fait de me dire j'accompagne Anne, parce que c'était tellement facile de l'accompagner sur scène. Moi, j'avais juste à poser mes notes dessous, quoi. Et elle nous embarque, elle m'embarque, et elle embarque les gens là-dedans. Elle se laisse traverser totalement par ce qui se passe. Et je l'ai vue prendre une chanson, il n'est pas arrivé qu'elle se trompe, et reprendre une chanson, et elle ne la reprenait pas de la même façon. Elle réinventait la chanson à ce moment-là. Il n'y a pas de côté faiseur chez Anne dans l'émotion. C'est-à-dire que Anne, elle chante pour moi. J'arrive et Anne, elle vient me chanter les chansons que je connais, que j'aime, et elle me les chante à moi toute seule. Alors, je refais de même. Rien que l'intro, de belles parenthèses. Pour moi, ça me... Et puis ça, on doit... C'est une mélodie qui commence très tranquille, très ténue, et puis ça me fait plein de frissons partout. Elle s'élargit, et ça s'ouvre, et ça... Et ça n'arrête pas, il y a des méandres tout le temps, et on a l'impression que ces mélodies sont très très simples, et en même temps, elle va tout le temps naviguer sur un ambitus qui est très très large. Elle tenait à cette exigence musicale. Moi, la musique, mes chansons, je l'entends comme ça, et je veux qu'il y ait ce foisonnement. En fait, ce que j'ai ressenti, c'est qu'elle a cette capacité à attraper tous les mouvements émotionnels, les sentiments, et à les, comme une caisse de résonance absolue. Et puis, ce goût de l'autre, ce goût de l'humain, c'est « raconte-moi qui tu es ». Donne-moi à voir quelle est ton âme. Mais elle ne le dira pas comme ça, parce qu'il n'y a pas de grand discours, il y a une extrême pudeur. J'ai rarement vu Anne faire des grandes phrases. C'est juste, elle écoute, et puis c'est du sous-titre. Quand je vous dis, oui, raconte-moi, quelle est ton âme, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi, elle ne le dira jamais, mais dans ses yeux, dans son regard, dans son attitude, c'est ça qu'elle dit tout le temps.
Oui, je suis poreuse. Quand je dis « je », c'est « nous ». Je suis le point où se rencontre tout ce que j'ai senti et tout ce que j'ai vu et entendu. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. À partir du moment où j'ai conscience d'être une femme, je pense que je suis toutes les femmes. Et je creuse. Je n'ai pas fini de creuser. Alors, je suis Alice, la fille aînée d'Anne Sylvestre, et je peux me glorifier de lui avoir inspiré les premières fabulettes. moi, j'adore les fabulettes, et elle a écrit les premières pour ma sœur et moi, et c'est un beau cadeau qu'elle a fait à tous les enfants. On a eu une enfance joyeuse. Elle aimait beaucoup, beaucoup, et ça, vous retrouverez ça dans la chanson « Les calamars à l'harmonica », où elle raconte beaucoup de souvenirs à elle de quand elle était une jeune mère. Elle adorait nous organiser des fêtes enfantines, des anniversaires. Elle nous emmenait faire des tours en méharie ou cueillir des mûres, ou nous éteindre des vêtements dans des grands chaudrons à la campagne. Quand il pleuvait trop, elle organisait des parties de cartes. Ou alors on pétrissait des cendriers atrocement laids en terre glaise et elle les cuisait dans son four et on passait des journées formidables. On avait une grande liberté, mais surtout elle nous faisait confiance et j'ai retrouvé un souvenir. Moi j'adorais grimper aux arbres et une fois j'étais grimpée très haut et j'étais sur une branche qui ne devait pas être énorme. Et tout d'un coup, j'ai vu ma mère en bas qui me regardait. Et elle ne m'a pas demandé de redescendre. Elle m'a pas dit « fais attention », elle a rien dit. Et après, elle ne m'a rien dit non plus. Mais elle était là et elle regardait. Et là, je me suis dit « tiens, il faudrait peut-être que je redescende un petit peu ». Elle était comme ça, elle n'interdisait pas, elle n'essayait pas de nous mettre trop de limites, mais elle était là. On était des personnes comme des autres. Le fait qu'on soit un enfant ne nous dispensait de rien, mais ne nous obligeait pas à être silencieuse ou à ne plus exister. Et c'est vrai, quand je me retrouvais chez des amis où les enfants n'avaient pas le droit de parler à table, je me disais, mais c'est pas du tout comme chez nous.
Va déployer bien tes ailes, ma chérie. Mais tu en as de si belles, toi aussi. Ne cherche pas à comprendre. Moi, je sais depuis longtemps qu'un jour se défait le tendre, que l'amour change de camp. Oh, je me trompe dans les paroles, je confonds les... C'est grave parce que je l'écoute vraiment tout le temps pour le coup, celle-là. Parce que ma mère m'a vraiment élevée avec les chansons d'Anne Sylvestre, donc quand je l'écoute, j'ai un peu l'impression d'entendre la voix de ma mère, quoi.
Te sens-tu cette louve vis-à-vis de tes filles? Pour elles, je pourrais soulever une locomotive. Parfois, je suis même convaincue que je serais capable d'inverser le temps. Que faut-il dire aux enfants? Je t'aime. Je ne te lâcherai jamais. Si on le pense, bien sûr. Il y en a qui ne le pensent pas. Et je peux aussi le comprendre.
J'ai toujours mes ailes, ma chérie. Mais tu as ouvert les tiennes sur ma vie. C'est cette phrase que je trouve vraiment magnifique, qui me bouleverse, quoi. Il y a vraiment ce qu'il y a de plus beau qu'une mère puisse dire à son enfant, quoi. Oui, j'ai toujours mes ailes, mais tu m'as privée de rien, quoi. Et ça me donne envie d'aller de l'avant. Parce que l'année prochaine, je pars à l'étranger. Et du coup, j'avais dû envoyer à ma mère cette chanson-là pour lui dire que je prenais mon envol. Ma mère avait répondu que combien de fois elle se l'était dit à elle en secret, qu'elle me souhaitait de bien déployer mes ailes.
Douce, douce, ne me pousse pas. Tendre et tendre, me prendre. Quoi?
Semble, ressemble. Ensemble, non, laisse, faiblesse, tendresse, bon.
J'ai vraiment un bon besoin de pleurer, bah, j'écoute Anne Sylvestre. Et puis des moments où je vais extrêmement bien, et j'écoute aussi Anne Sylvestre. Des moments où j'ai envie d'écouter des chansons d'amour, j'écoute aussi Anne Sylvestre. Où j'ai envie d'entendre du féminisme, je peux aussi écouter Anne Sylvestre. Donc enfin un peu tout, quoi. Elle a écrit sur tout, quoi. Parfois j'ai envie de rire et j'écoute Anne Sylvestre. J'ai envie de me rappeler que c'est pas bien grave, que oui, des fois on se sent dérisoire à côté de l'histoire, et que c'est normal d'avoir des doutes, que c'est normal d'être perdu, que enfin tout ça, quoi.
J'ai pas le souvenir de l'avoir vu écrire, ni vu ni entendu fabriquer ses chansons. Alors moi, j'ai évidemment le souvenir de l'avoir vu de temps en temps griffonner deux, trois mots sur un cahier, mais c'était vraiment peut-être une idée qui passait et c'était pas vraiment une séance de travail. Je pense que, d'une certaine façon, les chansons devaient mûrir un petit peu en elles, peut-être pas vraiment encore sous forme de chansons, mais sous forme d'intuition ou d'intérêt, peut-être, pour tel sujet ou telle personne ou telle histoire. Et encore, quand je dis tel sujet, je le dis un peu à reculons parce qu'elle disait toujours « je n'écris pas sur un thème ou sur un sujet, j'écris des histoires ». Et je pense que ça devait grossir en elle petit à petit, mais ça ne se concrétisait pas avant longtemps. Chaque chanson demandait un gros travail. Chaque mot était pile à sa place et c'était le bon mot. Et il n'y avait aucun laisser-aller là-dessus. Elle a été précurseuse. Elle a écrit très tôt des chansons sur des marées noires, sur le risque nucléaire, sur la guerre, sur des événements sur lesquels on a pris conscience beaucoup plus tard. Et en ressentant la chanson, ça donne la possibilité de saisir peut-être la hauteur de certains drames, de saisir aussi l'importance de recevoir l'avertissement. Et à la fois, elle était complètement elle-même dans ses chansons. Elle le dit dans une de ses chansons, elle dit « Si je soigne mes mots, c'est à moi que je pense ».
Acheminez-moi vos histoires, je les veux toutes à présent. Je suis comme un grand réservoir, le soleil est tombé dedans, et je gratterai la lumière avec mes ongles s'il le faut, pour illuminer vos chimères, pour rendre vrai ce qui est faux. Ma sœur, au début, et même jusque très longtemps, c'est vrai qu'elle n'a jamais aimé répondre à des interviews. Bon, à la fin, bien sûr, c'était quand même plus courant, elle arrivait mieux, mais elle était sur la défensive tout le temps. De toute façon, elle avait un caractère de cochon, hein, c'est un truc de famille, ça. Elle avait peur, non pas tellement qu'on la bouscule, mais elle avait peur, elle, de dire des choses qui seraient retenues contre elle. Et puis, c'était pas quelqu'un qui voulait jouer à la star. Elle voulait faire les choses à sa façon, et elle disait ce qu'elle pensait. Et bon, ça a déplu à beaucoup. Elle n'est jamais passée sur Europe 1, était très... Vous voyez, dans les années 60-70, c'était Europe 1, Luxembourg, il ne la passait pas. Mais se passer de la télévision pour faire une carrière, c'était très difficile à partir de cette période. Et comme elle ne se pliait pas, si vous voulez, à la mondanité, ni elle ne sortait pas, elle n'allait pas dans les... Mais elle était très sauvage. Parce que, voilà, elle traînait des valises. Elle a eu des périodes de creux, puis elle est repartie. Parce qu'elle avait un public. Il revenait même sans publicité, je veux dire. Donc elle avait quand même cette aura.
En 1974, Anne est à l'aube de ses 40 ans. C'est une nouvelle dimension à sa carrière qui va prendre forme. Il y a des chansons essentielles. En 1974, il y a une espèce de coup de poing avec une chanson qui s'appelle « Non, tu n'as pas de nom ». C'est une chanson sur le droit à l'avortement. En 1975, l'année d'après, là, il y a la chanson que beaucoup de gens considèrent comme son chef-d'œuvre. C'est Une sorcière comme les autres. Elle parle elle-même de manifeste. Elle parle, mais elle le dira pour d'autres chansons, mais elle dit qu'elle écrivait un peu sous la dictée. Et c'est à la fois un mélange d'allusions familiales et puis finalement le sort ordinaire de toutes les femmes dans l'histoire. Et d'ailleurs, ce genre de formule, c'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres.
S'il vous plaît, regardez-moi, je suis vrai. Je vous prie, ne m'inventez pas. Vous l'avez tant fait déjà. Vous m'avez aimée servante, m'avez voulu ignorante. forte, vous me combattiez. Faible, vous me méprisiez. Vous m'avez aimée putain, et couverte de satin. Vous m'avez faite statue, et toujours je me suis tue. Quand j'étais vieille et trop laide, vous me jetiez au rebut. Vous me refusiez votre aide, quand je ne vous servais plus. Quand j'étais belle et soumise, vous m'adoriez, à genoux. Me voilà, comme une église, toute la honte dessous.
Une sorcière comme les autres, c'est de la magie pure. Moi, je l'ai entendue chanter par Anne a cappella dans la rue, par un froid glacial, parce que il y a eu un féminicide au Québec. Donc, nous voilà partis une manifestation. Et on avait l'impression qu'elle l'avait écrite là pour l'occasion. Elle se déroule comme ça.
Et c'est ma mère ou la vôtre.
Une sorcière comme les autres.
Une sorcière comme les autres.
Je pense que je n'ai fait que des chansons engagées, toujours.
Engagées dans la vie.
Une sorcière comme les autres, c'est une chanson engagée. J'ai aussi des causes auxquelles je tiens et que je défends, mais je ne le dis pas toujours. Et puis, je n'ai pas envie toujours de mettre ça dans des chansons. Je hais l'opportunisme. Il y a quelques années, j'ai écrit une chanson qui s'appelle « Écrire pour ne pas mourir ». Je crois que c'est ça que j'ai fait pendant toutes ces années-là et que je vais continuer à faire, bien sûr, le plus longtemps possible. Il se trouve qu'écrire, j'aime ça et que je sais comment on fait, je crois.
Vous avez appris ?
Non, je le savais dès le début. Je m'en aperçois maintenant.
Pour moi, tout son répertoire est féministe. Le féminisme, c'est rien de très compliqué. C'est l'amour de la liberté. C'est la revendication de la liberté, oui, mais pas revendication avec une pancarte et dans la rue ou pas sur un tract. C'est la volonté farouche d'être libre. Et c'est ça qu'on entend dans les chansons. Je pense que féminisme, c'est la seule étiquette qu'elle a pas refusée parce qu'elle pouvait pas la refuser. Mais elle détestait les étiquettes. Jamais elle ne m'a dit « je suis féministe ». Jamais. Je ne me suis présentée en disant « Bonjour, je m'appelle Nadia Ringard, je suis féministe. » Mais je suis estampillée féministe par le travail que j'ai fait, par ce que j'ai pu écrire, par les films que j'ai faits. Je suis considérée comme féministe des débuts du MLF. Et quand on chantait ses chansons dans les manifestations, je lui racontais toujours. Elle était quand même émue et contente parce que « Non, tu n'as pas de nom » était repris dans les manifestations. Je lui ai beaucoup, beaucoup raconté à quel point ce mouvement était très attaché à son œuvre. Je lui ai raconté aussi les fins d'anniversaire où ça se terminait par Clémence en vacances et Petit Bonhomme. Ça m'amusait que ça la fasse rire parce qu'Anne détestait qu'on se trompe sur les paroles de ses chansons, détestait qu'on se trompe sur les titres de ses chansons. Et là, elle chantait faux et elle se trompait sur les paroles, mais c'était avec tellement de bonne humeur et d'affection pour son travail, ça l'amusait. Mais elle a su, grâce à ça, à quel point elle était aimée dans ce milieu-là.
Une maison douce, une maison de bon aloi, juste ce qu'il faut de mousse répartie aux bons endroits, assez de murs pour connaître une chaleur bien à soi, et ce qu'il faut de fenêtres pour regarder sans effroi. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Ouvrait parfois sa porte à ceux qu'elle choisissait. La serrure n'est pas forte, maison, tu n'as pas de clé. Mais avec sa confiance, jamais elle ne pensa qu'on pût user de violence pour pénétrer sous son toit. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Advint bien qu'un jour de malchance, une bande s'approcha. On sonne à la porte, on lance des coups de pied, ça et là. À plusieurs, on s'encourage, on prétend qu'elle ouvrira. Et commence le saccage, la porte, on l'enfoncera.
Non, douce maison, la claque. Effectivement, Anne disait, il faut pas prendre ça pour une chanson sur un cambriolage.
Sauvagement, ils pénètrent, dévastant tout devant eux. Ils obligent les fenêtres à s'ouvrir devant le feu.
Et douce maison, moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est à quel point ça dit beaucoup sur son féminisme.
Tout n'est plus que blessure. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte.
Ce qui est le plus impressionnant, c'est à quel point une chanson de 1978 disait déjà la victime était considérée comme coupable.
Il paraît qu'elle a fait preuve d'un peu de coquetterie avec sa toiture neuve et son jardin bien fleuri. Non, non, je n'invente,
non, non, je n'invente pas, mais je dis ce que je dois. C'est la dernière phrase de la chanson. Il n'y a pas d'idéologie là-dedans. Je raconte. Et oui, il faut l'entendre.
De s'indigner, il faut que cela s'arrête. On doit pouvoir vivre en paix, même en ouvrant sa fenêtre, même en n'ayant pas de clé. Non, non, je n'invente pas. Moi, je dis ce que je dois.
Et un beau jour, j'ai découvert ton grand nez, j'ai trouvé ça moche. Et tu m'as dit, pauvre caboche, regarde-toi, tu as les yeux verts. Elle a accompagné tous les moments importants de ma vie. Mon adolescence.
Avec quelle chanson ?
Carcasse. Et il y avait tout ce mal-être de l'adolescence, d'un physique qui peut être un peu ingrat. Et puis que de tout à coup, elle vous renvoie toute la tendresse qu'on peut avoir autour de ça. Et puis, bah, bien sûr, moi, mes enfants, quand j'ai eu mes enfants, c'était aussi autour d'Anne Sylvestre. Une chanson comme Clémence, par exemple, moi, elle m'éclate, quoi, parce que je me dis, ah ouais, Clémence qui fout rien, ouais, alors qu'on a toujours trimé tout ça, qu'il faut être la femme parfaite, la mère parfaite, celle qui bosse parfait aussi. Et le mec, tout à coup, quand on se met un peu en retrait, qu'on dit, ben non, moi j'en ai marre. C'est ce que j'ai dit à mon mari, j'ai dit, mais j'en ai marre. J'avais donné ce qu'il fallait, quoi. Et puis mince, à la fin, j'avais le droit maintenant de vivre pour mon plaisir à moi aussi. Et il n'a pas compris. C'est comme ça qu'on a divorcé. Et une sorcière comme les autres, vous savez, à un moment, elle chante, enfin, je peux vous suivre, mais je peux aussi marcher devant. Elle chante ça, en fait. Et à un moment, c'est ce que je me suis dit, mais oui, partout, en fait, on est dans cette problématique-là. Moi, au boulot, c'est en permanence ça. En permanence, on suit alors qu'on peut marcher devant. Et ça ne veut pas dire écraser ceux qui sont... C'est pas ça du tout. Hein. Mais il y avait un poids que je portais, je crois. Et j'ai compris que je le portais avec cette chanson.
J'ai une maison long l'air, j'ai une maison.
Mais là, je l'ai écouté en boucle pendant 2 mois.
Que je ne balaye guère, j'ai pas l'âme ménagère. Je suis loin de Cendrillon, mais quand s'ouvrent les lumières, quand dehors la neige fond, qu'il y fait bon. Car en plus de ça, je t'aime, 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 t'aime tant. Car en plus de ça, je t'aime tout le temps.
C'est beau cette mélodie. Mais voilà, c'est tellement rien. Elle raconte tellement des choses banales mais en même temps, c'est tellement émouvant. Enfin, du coup, ça donne envie d'avoir une vie banale. Je m'appelle Clémence, j'ai 33 ans et je suis la petite fille d'Anne Sylvestre. Je suis aussi chanteuse sous le nom de Mèche. On avait un lien très particulier avec ma grand-mère. C'est elle qui m'a apprise pour la première fois dans ses bras quand je suis née. On pouvait être à la fois grand-mère, petite fille, on pouvait être amie, pote de soirée ou collègue même. On a été coloc à un moment aussi parce qu'elle m'a hébergée chez elle quand je suis arrivée à Paris. Elle envoyait beaucoup, beaucoup d'amour. Moi, j'en ai ressenti énormément. Elle avait envie d'aider des jeunes chanteurs à écrire, à donner un peu ce qu'elle savait faire. Et elle avait proposé comme ça un atelier d'écriture où on était 4 ou 5 jeunes chanteurs et chanteuses. Elle était dans son fauteuil, puis nous, on était autour de la table. C'était plein de bienveillance envers nous. Elle nous donnait quelques conseils, mais elle nous poussait surtout à continuer. Et c'était drôle et en même temps très studieux. On n'entendait personne pendant une heure. Je me souviens de ses grands cahiers où elle écrivait tout à la main. Des grandes chansons, longues chansons, fleuves, quoi. Il y en a tellement. Elle en a fait à peu près 300 fabulettes et 300 autres chansons.
J'aimais les mots, j'aimais les notes, et puis ça s'est rencontré, et voilà. Ça a fait des chansons, et une fois que les chansons étaient écrites, il fallait les chanter. De quoi parler d'autre que la vie et des gens? Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens, c'est pas les idées. Les gens qu'on aime, qu'on a aimés, les gens qu'on voit, les gens qu'on n'aime pas, les événements, et tout ça. Moi, je pense qu'il n'y a pas de thème ou qu'il n'y en a qu'un seul, c'est la vie.
Les chansons d'Anne Sylvestre, c'est à part, quoi. À part, comme d'une autre planète, quoi. Une perception, une ultra-perception, en fait.
Vous savez qu'elle habitait dans cette rue ?
Ah bah non. Là, je passe ça par hasard. Elle habite à rue de la Réunion ? Ah, c'est beau, quand même, c'est pas n'importe quel mot, quoi, Réunion, non ?
Dame de mon quartier, quartier de pamplemousse, elles ont la peau si douce qu'on dirait de la soie.
Anne Sylvestre, elle habitait juste un peu plus loin, aux 6 rue de la Réunion. Elle habitait cette petite maison en briques et elle adorait cette maison, elle adorait le quartier. Et quand elle avait besoin de se reposer, de boire un café, d'échanger avec quelqu'un, elle venait chez nous.
Et il y avait des gens de beaucoup de nationalités et elle adorait ça. Elle s'est sentie bien là-bas et c'est justement en parlant de ce quartier qu'elle avait écrit la chanson « Les dames de mon quartier ».
De mon quartier de lune, je n'en connais aucune, mais je peux bien rêver.
Elle s'inscrivait de temps en temps à des concours de belote. Elle avait vu affiché quelque part « concours de belote », elle s'est inscrite. C'était très drôle parce qu'il y a des gens qui l'abordaient dans la rue en lui disant « Anne, vous vous rappelez, on a gagné ensemble, hein, on a joué contre Monsieur Machin et Madame Truc ». C'était assez rigolo qu'elle soit abordée pour cette raison-là, alors que d'habitude c'est parce que les gens connaissaient ses chansons.
Je suis Jean Kandemir. Je suis d'origine turque et c'était toujours une richesse pour moi de discuter avec Anne. Et moi, en tant que restaurateur, je ne connaissais même pas Anne Sylvestre en tant qu'artiste. Petit à petit, les amitiés se sont tissées. On riait à volonté, voilà, très fort. Elle adorait les aubergines, tout ce qui est avec aubergines, l'aubergine farcie, la moussaka aussi, elle en mangeait de temps en temps, mais la aubergine farcie en particulier, elle aimait beaucoup. Le fait est qu'on a arrivé à une amitié de telle, presque se connaître en famille, c'est qu'elle ne faisait pas de différence entre les gens, les cultures et d'où qu'on vienne. Et c'est ça en fait qui m'a séduit. Elle était d'une profondeur. C'est ses côtés humanistes, je pense, son côté aimer les gens. Anne Sylvestre, quand j'ai appris qu'elle est décédée, c'est vrai que c'est une... J'ai ressenti la même chose que quand ma mère est décédée. Elle nous a aimés.
C'est toutes des photos de mon grand-père, Henri Droux. Ça, c'était dans ma maison. Ah, j'ai perdu la page.
elle est incroyable sur cette photo.
Ouais.
Son visage, là.
Elle était tout le temps sortie, tout le temps à aller découvrir les gens. Ça rejoint ce côté de l'enfance, cette capacité absolue d'émerveillement dans l'instant présent. Ouais, elle voit chez l'autre ce qui est beau. Et pour les jeunes chanteurs, les jeunes chanteuses, je veux dire, quel cadeau. Elle était là, non seulement aux premières, mais elle était là au deuxième, au douzième, à la vingtième fois, pour suivre le travail de chacun et de chacune.
Elle a une détermination là, dans les yeux, là, par exemple. La force. La force et la douceur en même temps.
Plus personne va me casser les pieds, a dit Violette à son boucher, qui la toisait de ses lunettes. Et pour la petite dame, ce sera quoi?
Où ça, la petite dame? J'en vois pas.
C'est pas une petite dame, Violette.
La chanson est magnifique, le texte est magnifique.
Ce qu'elle dit aussi dans Violette, hein, quand elle dit elle n'aime pas les rétroviseurs. Mais je veux dire, ça c'est une phrase, c'est totalement Anne.
80 ans et des poussières, c'est pas mon ton. 80 ans et des poussières. Plus de 20 fois arrière-grand-mère. Votre dédain ne lui fait pas peur. Les quelques années qui lui restent, elle veut les vivre à fond la caisse. Elle aime pas les rétroviseurs. Et c'est pas un marchand de barbac qui va lui casser la baraque.
Ah, la première fois que je l'ai entendue. Oh ouais, parce que ce côté... Dès qu'on passe une certaine limite d'âge, on vous parle comme si vous étiez des débiles.
Alors, et la petite dame et le petit monsieur, alors c'est quoi, mais quoi?
Ben oui, tout le monde n'est pas gâteux. Ce mépris, ce dédain, ça me... On en parlait de ça avec Anne. Ça me débecte.
Ça, c'est moi et mon frère. Les choses dures que ma grand-mère a vécues, j'en ai entendu parler que très tard par rapport au livre de ma grand-tante, Marie Chex. Dans la famille, personne ne parlait de ces choses-là parce que c'était dur et puis on n'en parlait pas avec elle et elle n'en parlait surtout pas en fait. Elle gardait tout ça pour elle. Son enfance devant les barreaux de la prison pour son père, de la perte de ses frères. Je pense qu'elle a jamais trop guéri de tout ça. Elle en a fait des chansons. Je sais que de mon côté, j'ai reçu des choses intergénérationnelles de ma grand-mère. J'ai pleuré son frère, le fait d'avoir perdu son frère à sa place.
Vous l'avez dit?
Non, je lui ai jamais dit. On avait aussi, dans ce sens, une vie liée, puisque j'ai aussi perdu mon frère. On a perdu mon frère Baptiste dans les attentats du 13 novembre au Bataclan. Sa réaction, c'était « ça recommence ». Le frère qui disparaît, la douleur des armes, de la guerre, de quelque chose d'insoutenable qui revient, en fait, qui revient par cycle. Bon, j'espère que c'est fini, ce cycle.
Si mon âme en partant ne peut dans ses bagages emporter la douceur d'une soirée de mai, s'il lui faut oublier qu'existèrent jamais les algues, les cailloux ramassés sur les plages, ne pourrait-elle au moins sauver quelques nuages de ceux qui couronnaient Sainte-Rose du Nord, ou bien les étendues de colza jaune d'or que Clémence à 3 ans saluait au passage? Si mon âme en partant soudain se retrouvait orpheline de tout ce qui l'émerveillait, je mourrais à regret. partant doit laisser sur la rive le parfum de la terre après les giboulées ou celui d'une ville au bitume lavé quand au petit matin les balayeuses arrivent. Ne peut-elle emporter cette fragrance vive du jasmin qui poussait au jardin de Tassin, l'odeur de tel matou aux relents assassins ou l'étrange senteur des amours en dérive. Si mon âme en partant soudain se retrouvait orpheline de tout ce qui l'émerveillait, je mourrais à regret.
Les derniers temps ont vraiment été difficiles. Les confinements ont été très difficiles, elle en a beaucoup souffert. Elle avait toute une année de concerts prévus. Et pour elle, ça a été un déchirement. Elle était capable de monter sur scène malade comme un chien. Elle a fait des concerts avec un genou cassé, avec des conditions physiques parfois pas terribles. Parce que pour elle, c'était inimaginable d'annuler un concert. C'était vraiment, vraiment magique parce que ça la remettait sur pied.
Si mon âme en partant soudain se retrouvait orpheline de tout ce qui l'émerveillait.
Je pense qu'elle avait fermement décidé de ne jamais mourir. C'était absolument pas envisageable pour elle. Je crois que c'était un refus catégorique parce qu'elle aimait la vie. Donc voilà, d'une certaine façon, elle ne mourra jamais.
Quand mon âme en partant depuis toujours saura qu'on y va sans bagage à ce rendez-vous-là, croyez-moi, elle reviendra.
Anne Sylvestre, celle qui nous chante. Un documentaire d'Élise Andrieux, réalisé par Annabelle Brouard. Avec Alice Yonet-Droux, Clémence Chevreau, Marie Chex-Matthews, Nathalie Miravette, Nadia Ringard, Daniel Panchenko, Marie-Thérèse Aurin, Jean Candémir, Savannah, Sabine, Séverine et les passants du quartier. Merci à Stéban Lamarca et au Forum Léo Ferré, au groupe Évasion, à Françoise Durand, à Philomène Petitjean et tous ceux qui m'ont aidé pour ce documentaire. Prise de son Lucien Lefebvre et Sébastien Huel, mixage Manu Couturier, archivina Christelle Rousseau, extrait des livres de Monique Detry, Anne Sylvestre pour de vrai et de Daniel Panchenko, Anne Sylvestre et elle chante encore. Coordination Anaïs Kien, attachée de production Sylvia Favre.
Je sais maintenant comment je m'appelle, je vous le dirai, je vous le dirai. Je sais maintenant comment je m'appelle, et c'est pas demain que je l'oublierai. Et c'est pas demain que je l'oublierai. Et c'est pas demain que je l'oublierai.